Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins tordent quotidiennement les barreaux de la cage d'acier en compagnie de Jean Danielou, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Géraldine Mosna-Savoie et Mathilde Wagman. À la lecture des textes cette semaine, un esprit, Jean-Louis Jacopin, à la réalisation, une éthique, Olivier Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son, un idéal type d'Aliya. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui un ouvrage de Bertrand Russell, jusque-là inédit en français, Éthique et politique, disponible chez Payot. De Max Weber, l'un des fondateurs de la sociologie moderne, le 21e siècle a retenu quelques formules souvent mal comprises. La cage d'acier, allégorie de la civilisation capitaliste industrielle moderne, qui désigne l'enfermement de la liberté individuelle au sein de structures impersonnelles, gouvernées par le règne du calcul. L'idéal type, outil méthodologique nécessaire mais qui immobiliserait la pensée dans l'abstraction. Et l'opposition entre l'éthique de conviction, la fin justifie les moyens, et l'éthique de responsabilité. Il faut être lucide quant au choix des moyens et prendre en compte les effets engendrés par la fin recherchée. Weber serait ainsi le Karl Marx de la bourgeoisie et le penseur du désenchantement du monde qui aurait sacrifié l'idéal révolutionnaire sur l'autel du pessimisme critique. Mais Weber est avant tout le penseur des tensions et des ambivalences. La cage d'acier est autant le fruit de la rationalité que de l'irrationalité. L'idéal type est avant tout, selon ses propres termes, un moyen de penser la réalité de la vie. Et bien loin de s'opposer, l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction doivent se penser ensemble pour obtenir les conditions d'une action politique digne de ce nom. Avec Weber, la sociologie doit avant tout se garder d'être normative et penser les corrélations entre le matériel et le spirituel en termes d'affinités électives. Un concept n'est rien sans la prise en compte du contexte, de la subjectivité, de la culture et des passions qui animent chaque individu. Alors en quoi l'éthique protestante a-t-elle favorisé la naissance de l'esprit capitaliste? Quel est le lien entre l'économie et l'érotisme? Peut-on croire au pouvoir sans légitimer la domination politique? Et que nous disent les religions des cultures humaines? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre cette semaine, avec demain Michel Lallemand qui vous montrera que l'érotisme ne s'oppose pas à l'économie, mercredi Isabelle Kalinowski qui se demandera ce que signifie une sociologie de la religion, et jeudi Yves Saint-Omer qui vous parlera de la domination et qui s'interroge sur la politique comme vocation. Mais aujourd'hui, pour commencer cette semaine weberienne, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Levy pour évoquer le texte le plus connu du sociologue, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme.
Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent. Celui qui, pouvant gagner 10 shillings par jour en travaillant, se promène ou reste dans sa chambre à paresser la moitié du temps, bien que ses plaisirs, que sa paresse, ne lui coûtent que 6 pence, celui-là ne doit pas se borner à compter cette seule dépense. Il a dépensé en outre, jeté plutôt, 5 autres shillings. Souviens-toi que le crédit, c'est de l'argent. Souviens-toi que l'argent est par nature générateur et prolifique. L'argent engendre l'argent. Ses rejetons peuvent en engendrer davantage et ainsi de suite. 5 shillings qui travaillent en font 6, puis se transforment en 7 shillings 3 pence jusqu'à devenir 100 livres sterling. Plus il y a de shillings, plus grand est le produit chaque fois, si bien que le profit croît de plus en plus vite. Celui qui tue une truie anéantit la descendance jusqu'à la 1000e génération. Celui qui assassine une pièce de 5 shillings détruit tout ce qu'elle aurait pu produire, des monceaux de livres sterling.
Avec moi.
Ouais.
Bonjour Michael Levy.
Bonjour.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance.
Merci.
Vous étiez déjà venu à ce même micro nous parler de Walter Benjamin. C'était il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, c'est de Max Weber que nous allons parler. Vous êtes sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS et l'auteur d'un ouvrage paru tout récemment intitulé « La cage d'acier » sur Max Weber et le marxisme weberien, paru chez Stock. Nous venons d'entendre un texte de Benjamin Franklin à propos duquel Max Weber dit dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » qu'il explique de façon caractéristique l'esprit du capitalisme. Il va même jusqu'à dire que c'est un idéal type, c'est-à-dire ce qui nous permet de comprendre ce qu'est l'esprit du capitalisme. En quel sens est-ce le cas ?
Eh bien, l'idéal type, c'est un concept qui essaie de comprendre la logique de la réalité, mais qu'on ne trouve jamais dans la réalité elle-même. La réalité est toujours beaucoup plus confuse, complexe que cet idéal purifié, disons, du concept de l'idéal type. Mais il y a des phénomènes dans la réalité qui s'approchent de l'idéal type. Et c'est le cas de Benjamin Franklin par rapport à l'esprit du capitalisme tel que le définit Max Weber. Et donc Benjamin Franklin, il est très proche de cet esprit idéal typique du capitalisme, c'est-à-dire de l'argent pour l'argent, le profit pour le profit, l'accumulation pour l'accumulation, comme but en soi auquel tout le reste est sacrifié. Donc voilà, Weber est fasciné par le personnage de Benjamin Franklin parce qu'il voit en lui l'expression presque chimiquement pure, disons, de l'esprit du capitalisme.
Et pourquoi parle-t-il d'esprit du capitalisme ? À quoi renvoie le terme d'esprit ?
L'esprit en renvoie à certaines façons de penser, mais d'agir aussi, à certaines valeurs. Disons à un ensemble, à une certaine vision du monde. Voilà, donc sans l'esprit du capitalisme, le capitalisme ne pourrait pas exister et vice-versa. Donc il y a une dialectique entre le capitalisme et l'esprit du capitalisme pour Weber.
Mais ça veut aussi dire que le capitalisme ne se réduit pas à un mode d'organisation économique, mais qu'il est l'expression ou le résultat d'une certaine attitude collective, mais aussi individuelle, eu égard à l'argent. C'est-à-dire que cet esprit, c'est aussi une forme de caractère, une certaine mentalité, et c'est en cela qu'il fait le lien entre l'esprit capitaliste et l'éthique protestante.
Oui. Oui, la thèse principale de Weber dans ses livres, qui est un de grands ouvrages de la sociologie du XXe siècle, c'est que on ne peut pas comprendre l'esprit du capitalisme sans l'éthique protestante et vice-versa. Alors, il essaie d'aborder ces liens de différentes façons. Tantôt, il suggère que c'est les bourgeois qui sont devenus protestants parce que ça correspondait à leur pratique. Tantôt, il dit l'inverse, c'est-à-dire les protestants sont devenus bourgeois parce que l'esprit, l'éthique protestante a favorisé l'essor du capitalisme. Donc, il semble hésiter entre ces deux hypothèses, mais finalement, le point de vue qui est le plus proche, disons, de sa façon de penser, c'est qu'il y a entre ces deux phénomènes qui sont l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, un rapport d'affinité élective.
Il emprunte l'expression à Goethe, d'affinité élective, qui lui-même l'empruntait d'ailleurs au Moyen-Âge.
Voilà, c'est un concept qui a une histoire. Il vient de l'alchimie, affinitatis élective en latin. Bon, on le trouve dans certains traités de chimie du XVIIIe siècle, par exemple. Traités de chimie qui ont inspiré Goethe pour qu'il écrive son roman « Die Wahlverwandtschaften », « Les affinités électives ». Mais là, on passe de la chimie à la chimie des esprits humains. Bon, c'est des histoires d'amour où les âmes se rapprochent l'une de l'autre par leurs atomes crochus, disons. Donc, l'affinité élective, c'est la parenté spirituelle entre un homme et une femme, entre leurs âmes. Bon. Et Weber s'est inspiré de Goethe pour en faire un concept sociologique. Bon, l'affinité élective, donc, c'est une espèce de mariage chimique, disons, entre, dans ce cas, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Donc, plus on est protestant, calviniste, ascète, plus on a l'esprit du capitalisme, et plus on est capitaliste, plus on se reconnaît dans l'éthique protestante. Voilà, c'est ces rapports réciproques d'attraction mutuelle, élection mutuelle et renforcement réciproque. C'est ça qui donne à comprendre le concept d'affinité élective, qui permet à Weber de dépasser un peu la querelle un peu stérile entre matérialisme et idéalisme. Est-ce que c'est l'économie qui explique la religion ou inversement? Bon, avec l'affinité élective, Weber réussit à contourner un peu ce débat pour suggérer une approche plus riche, plus subtile, plus complexe de cette réciprocité qui va s'instaurer au cours de siècles, disons, entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme.
C'est un outil méthodologique hors pair pour lui, puisqu'en effet, parler d'affinité élective lui permet d'esquisser comme une théorie alternative de la causalité. C'est pas l'éthique protestante qui a causé l'esprit capitaliste, et ni inversement, mais les deux sont conjoints, c'est-à-dire qu'il sort à la fois de l'opposition et de la dialectique.
Oui, non, je dirais que c'est une dialectique, c'est une sorte de dialectique entre cause et effet.
Mais qui ne se résout
effet.
Pas en un seul point, comme c'est le cas chez Hegel, c'est-à-dire ouais. qu'au fond, cette dialectique est permanente, il y a une tension permanente.
Voilà. Oui, effectivement. D'ailleurs, Weber l'utilise dans d'autres contextes. Dans mon livre, j'essaie de faire répertorier un peu les utilisations pour analyser le rapport entre phénomènes politiques, phénomènes économiques, religieux, etc. Mais là, c'est effectivement une approche du rapport entre protestantisme et capitalisme qui est très subtile et qui montre ça comme un processus, pas comme quelque chose de figé, un processus historique dans lequel ces deux phénomènes vont se susciter mutuellement. C'est ça l'intéressant dans l'hypothèse weberienne.
Le puritain voulait être un homme de métier. Nous devons l'être. En effet, à partir du moment où l'ascèse quitta la cellule monastique pour être transposée dans la vie professionnelle et commença à exercer son empire sur la moralité intramondaine, elle contribua à sa manière à construire le puissant cosmos de l'ordre économique moderne, tributaire des conditions techniques et économiques, de la production mécanique et machinisée, dont les contraintes écrasantes déterminent aujourd'hui le style de vie de tous les individus nés dans ces rouages, et le détermineront peut-être jusqu'à ce que le dernier quintal de carburant fossile soit consumé. Baxter souhaitait que le souci des biens matériels ne pesât sur les épaules de ses saints que comme un fin manteau que l'on peut enlever à tout instant. Mais le destin voulut que ce manteau devienne une dure chape d'acier. À partir du moment où l'ascète entreprit de transformer le monde et d'agir dans le monde, les biens matériels de ce monde acquirent sur l'homme un pouvoir croissant et finalement inéluctable, comme on n'en avait jamais connu auparavant dans l'histoire. Aujourd'hui, l'esprit ascétique n'habite plus cette chape. Est-ce définitif? Comment le savoir? Le capitalisme victorieux n'a en tout cas plus besoin de ce soutien, depuis qu'il possède une base mécanique. L'humeur enjouée de sa riante héritière, l'Aufklärung, semble elle aussi définitivement perdue, et l'idée du devoir professionnel erre dans notre vie comme un fantôme des croyances religieuses d'autrefois.
Michael Levy, comment comprendre le lien, puisque c'est là toute la thèse de Max Weber, entre d'un côté l'ascèse propre au calvinisme, et pas seulement au protestantisme en général, et de l'autre l'intérêt ou la demande pour l'accroissement des biens matériels, puisque ça paraît opposé. En premier lieu, l'ascèse, au contraire, se contenter du minimum, et le capitalisme implique, à l'inverse, une accumulation des gains. Donc comment comprendre que l'un puisse engendrer l'autre?
Oui. Bon, il faut voir que l'éthique protestante, c'est pas seulement l'ascèse, c'est aussi ce qu'on appelle l'éthique protestante du travail. C'est-à-dire le travail, le métier, c'est un devoir religieux, un devoir envers Dieu. Et donc, selon Weber, cet investissement obsessionnel dans le travail quand il se combine avec l'ascèse, c'est-à-dire les refus du luxe et des dépenses ostentatoires, etc., conduit inévitablement à l'accumulation du capital, de l'argent, puisque on gagne beaucoup, puisqu'on travaille beaucoup, et on épargne parce qu'on ne dépense pas. Et donc, nécessairement, on est obligé à investir dans son entreprise. Voilà, cet enchaînement conduit à l'accumulation, à l'épargne, à l'investissement et donc à l'expansion des affaires capitalistes. En outre, selon Weber, le protestant ascétique, c'est quelqu'un qui est obsédé par les saluts de son âme et il cherche désespérément des signes qu'il est parmi les élus. Et il décide que la prospérité économique, c'est un de ces signes qu'il est sauvé, hein, qu'il est parmi les élus. Dieu a favorisé ses affaires, donc il doit être un des élus. Bon, voilà le lien. Hein.
Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'avec le dogme de la prédestination, l'homme se voit retirer la certitude de ce qui pourra... ne dépend plus de l'homme le fait qu'il soit ou non choisi par Dieu. Et du coup, il y a comme un besoin, c'est ce que montre très bien Weber, un besoin de rationalité des croyants qui vient de ce doute radical suscité par la doctrine de la prédestination et qui fait que du coup, comme l'homme est dépossédé des moyens d'assurer son salut, eh bien, il va tenter d'investir au maximum son travail en y accordant une telle valeur que il va juger que s'il réussit son travail et s'il gagne le plus d'argent possible, alors il met de son côté toutes les chances de pouvoir être élu par Dieu. C'est ça qu'il faut entendre en réalité.
Pas tout à fait. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que il investit ou il épargne, etc., qu'il va être élu. Parce que l'élection ne dépend pas de ses actions, justement. Et l'élection, c'est une décision complètement arbitraire des dieux. Mais il voit dans le succès de l'entreprise un signe d'élection. C'est-à-dire, si Dieu favorise mon entreprise, c'est parce qu'il m'a élu pour être sauvé. C'est ça. Bon, c'est à la fois très rationnel et complètement irrationnel. C'est ça, la beauté de la chose. Bon, voilà tout cette espèce de circularité. Il y a une espèce de circularité entre les raisonnements théologiques, calvinistes, etc., et les pratiques capitalistes. C'est ça qui fait que plus on est un bourgeois et un capitaliste, plus on a de l'attirance politique protestante et inversement. Voilà le processus historique qui a conduit, selon Weber, à l'essor du capitalisme, notamment dans le pays protestant. Mais parfois, il dit aussi que, par exemple, à propos de l'Allemagne, là où le capitalisme se développait, les gens sont devenus protestants. Donc, ça va dans les deux sens.
Mais c'est un processus de rationalisation dans les deux cas, puisque c'est le lien que fait Weber justement entre les deux, c'est que cette ascèse protestante est l'expression d'une volonté de rationalisation d'une vie qui échappe à l'individu.
Oui.
Et c'est le propre de l'Occident, selon Weber, que de fonctionner par rationalisation. C'est ce qu'on entend par le désenchantement du monde, la démagification du monde. Essayer de ramener à une explication rationnelle ce qui, sans cela, serait de l'ordre du mystique.
Oui, disons, il y a une rationalité religieuse, déjà, c'est-à-dire c'est une religion rationnelle à sa façon, et il y a la rationalité économique. Hein, et entre les deux aussi va se créer cette affinité élective. Mais le capitalisme, c'est à la fois les systèmes économiques les plus extrêmement rationnels dans le calcul, disons, de la fin et des moyens, du rapport entre les profits, l'investissement, la marchandise. Bon, donc tout ça est tout à fait réglementé selon des calculs rationnels. Mais en même temps, dit Weber, il y a une irrationalité foncière dans le système, dans le capitalisme. Parce que du point de vue de la simple satisfaction des besoins et des désirs humains, du bonheur, de ce point de vue, le capitalisme apparaît comme totalement irrationnel, puisque Le but de la production, de l'activité économique, ce n'est pas de satisfaire le besoin et de promouvoir le bonheur humain, mais c'est la production pour la production, l'accumulation pour l'accumulation, l'argent pour l'argent. Donc il y a une irrationalité foncière dans les systèmes. C'est, là aussi, c'est très intéressant ce rapport entre une extrême rationalité partielle au niveau de l'entreprise et une irrationalité du point de vue humain, disons, de but humain de la production qui serait la satisfaction des besoins.
Est-ce cette irrationalité qui conduit à produire, alors ce qu'on traduit parfois par cage d'acier, c'est le titre de votre livre, ou par chape d'acier, c'est le cas d'Isabelle Kalinowski qui a traduit le texte, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, dont la traduction exacte serait habitacle dur comme l'acier. Alors quelle est cette cage, cet habitacle d'acier, et est-il le résultat de cette irrationalité?
Il est le résultat des deux, hein, le résultat de la rationalité et de l'irrationalité. Mais essentiellement, il est un processus que personne ne contrôle. C'est un processus qu'il désigne comme une fatalité. Hein. C'est au sens de double sens de quelque chose, un destin qu'on ne contrôle pas et quelque chose de désastreux, hein, la fatalité dans le sens du désastreux, qui fait que les individus sont soumis à de mécanismes aveugles qu'ils ne contrôlent pas, hein, et qui les enferment, hein, ils les enferment dans des structures qui ont la dureté de l'acier. Hein. C'est ça l'image. C'est une allégorie, hein, au sens fort du terme allégorie. Et, le terme cage d'acier, c'est une traduction inexacte. C'est Talcott Parsons qui a inventé cette traduction. La traduction exacte, pardon, c'est habitacle dur comme l'acier. Mais ce n'est pas non plus une chape. Hein, c'est pas une chape, parce que la chape donne pas cette idée d'emprisonnement comme l'habitacle, hein, ou comme la cage. Donc il y a l'idée de la perte de liberté. Hein, c'est ça l'idée forte de ce pardon, ce concept, la perte de liberté. où les individus sont enfermés par les systèmes. Hein, et c'est une image très forte et une image qui montre une distance critique par rapport au capitalisme.
Bah, alors justement, une distance critique, mais Max Weber se targue quand même, en sociologue qu'il est, de ne pas prendre position. Il prône ce qu'il appelle une neutralité axiologique, oui, qui fait qu'un sociologue ne doit pas émettre des jugements de valeur. Il oui, travaille sur le rapport des hommes aux valeurs, mais lui-même ne doit pas prendre position. C'est une des caractéristiques de sa méthode sociologique. Et pourtant, avec cette expression de cage d'acier, d'habitacle dur comme l'acier, il semble là prendre position et dénoncer un état de fait.
Oui. Alors,
ça, c'est quand même un problème.
Oui, oui. Non, mais c'est intéressant. C'est une des contradictions du personnage. Weber est intéressant, notamment par ses contradictions, ou ses tensions. Alors, d'une part, effectivement, il veut une science libre de jugement de valeur, wertfrei. Et son livre, pour l'essentiel, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est une analyse où il ne prend pas de position, hein. Il montre comment s'installent ces rapports, hein, cette dialectique, cette affinité élective entre les deux, sans dire ni si c'est bon ou c'est mauvais. Bon, il analyse le phénomène. Bon, mais dans les dernières pages du livre, comme il dit lui-même, il s'excuse presque en disant « Bon, maintenant je fais me livrer à quelques jugements de valeur ». Et bon, il est un peu mal à l'aise. Il dit « J'espère que ça ne va pas mettre en question l'analyse historique que j'ai faite dans les gros du livre, n'est-ce pas ?» Mais bon, il ne peut pas ne pas, disons, c'est plus fort que lui. Il doit s'exprimer, il doit se livrer, il doit livrer le fond de sa pensée, hein, sa propre vision du monde, ses propres valeurs. Il ressent ses besoins. Hein, et ça, c'est très intéressant. Hein. Et même si ça va contre, disons, la règle qui s'est imposée lui-même. Bon. Et c'est très intéressant, justement, cette dernière partie, les dernières pages, où on voit à la fois un regret par rapport au passé, l'universalité faustienne des êtres humains, des civilisations du passé. Il ne dit pas lesquelles, mais on peut imaginer que c'est la Renaissance ou le Moyen-Âge, je ne sais pas. Et quand on est entré dans la modernité, on est entré dans une société de la parcellisation de la vie, du savoir, la spécialisation étroite et la cage d'acier. Donc là, il y a une critique très, très radicale du système parce qu'il conduit à la perte de la valeur la plus précieuse qui est la liberté. Nous sommes enfermés par ce mécanisme que nous avons nous-mêmes créé, qui est celui du système capitaliste. Nous n'avons plus de liberté. Nous sommes, nous sommes pris comme des rats dans cet habitacle dur comme l'acier, dans cette cage d'acier. Bon, et c'est un destin auquel nous ne pouvons pas échapper, qui pèse sur nous avec toute sa force. Donc c'est une critique très forte. Une critique très forte qu'il va reprendre dans d'autres écrits. Ça va, il a un autre texte où il dit « Le capitalisme, c'est un esclavage sans maître. » Là aussi, c'est très fort. C'est un système de négation de la liberté, sauf que ce n'est pas comme dans l'esclavage ancien, bon, il y a le maître qui, etc. Non, c'est un esclavage impersonnel. Donc voilà une vision extrêmement pessimiste, extrêmement critique de quelqu'un qui se veut un scientifique libre de jugement de valeur.
J'obéirai désormais à la règle suivante. Toute production et création est donc bonne, toute consommation et destruction est donc mauvaise. En vérité, ma situation ici est assez semblable à celle de mes compatriotes qui débarquent chaque jour par navire entier sur les côtes du Nouveau Monde. Eux aussi doivent se plier à une morale de l'accumulation. Pour eux aussi, perdre son temps est un crime. Thésauriser du temps est la vertu cardinale. Thésauriser, voici qu'à nouveau la misère de ma solitude m'est rappelée. Pour moi, semer est bien, récolter est bien. Mais le mal commence lorsque je moule le grain et cuis la pâte, car alors je travaille pour moi seul. Le colon américain peut, sans remords, poursuivre jusqu'à son terme le processus de la panification, car il vendra son pain, et l'argent qu'il entassera dans son coffre sera du temps et du travail thésaurisé. Quant à moi, hélas, ma misérable solitude me prive des bienfaits de l'argent dont je ne manque pourtant pas. Je mesure aujourd'hui la folie et la méchanceté de ceux qui calomnient cette institution divine, l'argent. L'argent spiritualise tout ce qu'il touche en lui apportant une dimension à la fois rationnelle, mesurable et universelle, puisqu'un bien monnayé devient virtuellement accessible à tous les hommes. La vénalité est une vertu cardinale. L'homme vénal sait faire taire ses instincts meurtriers et asociaux, sentiments de l'honneur, amour-propre, patriotisme, ambition politique, fanatisme religieux, racisme, pour ne laisser parler que sa propension à la coopération, son goût des échanges fructueux, son sens de la solidarité humaine.
Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, moi, hey, adieu la charrette, tous les jours j'ai digué riche, dado 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 moi. Je bâtirai un vrai.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée au sociologue Max Weber. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir le sociologue et philosophe Michael Levy pour parler de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, un texte qui date de 1905. Michael Levy, qui est l'auteur notamment de La cage d'acier, Max Weber et le marxisme weberien, publié aux éditions Stock.
Pour la joie. Si j'étais riche, tous les jours j'ai digué, oh, si j'étais riche, moi, hey, adieu la charrette. Et dit que dit do dit do doi do doi do doi do doi do doi. Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'aurait donné du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche, moi?
Michael Levy, le texte qu'on a entendu juste avant, interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin, était de Michel Tournier. C'est un extrait de Vendredi, le limbe du Pacifique. Dans la première partie du roman, Robinson va tenter de restaurer l'ordre capitaliste sur l'île qu'il a baptisée Speranza, une forme d'organisation sociale, alors qu'il est seul. Et on l'entendait, hein, mettre en avant la valeur de l'argent, de la thésaurisation. L'argent, dit-il, spiritualise tout ce qu'il touche en lui apportant une dimension rationnelle, et la vénalité serait une vertu cardinale. Ce qui soulève la question de savoir d'où vient ou comment on est, quel est le processus qui va générer à la fois l'éthique protestante et l'esprit capitaliste. Max Weber accorde beaucoup d'importance à une méthodologie individuelle, c'est-à-dire qu'il va vraiment partir d'un individu à un moment donné, pas simplement d'un collectif. Dans le cas Tournier, on a l'impression qu'il va remettre en œuvre un état de fait qui était celui de la société dans laquelle il vivait avant d'arriver sur l'île déserte. Est-ce que ça veut dire qu'il va reproduire pour lui-même ce qui était le cas à l'échelle collective, ou est-ce qu'il a inculqué, mais là dans son comportement, dans ses croyances même, ce qui n'était qu'un état de fait, disons, économique? Est-ce que l'origine est individuelle ou collective?
Ben, on ne peut pas séparer l'individu du collectif. Les choses se passent toujours à la fois chez les individus et dans la société, dans les classes sociales. Bon, les cas là de ce qu'il décrit dans ces passages, c'est quelque chose dont Weber parle à propos des États-Unis. Il dit que les colons qui sont arrivés aux États-Unis, bon, ils n'étaient pas seuls comme Vendredi, mais enfin, ils étaient des petits noyaux. Tout de suite, ils ont commencé à avoir des pratiques capitalistes, hein. Et ce qui était en rapport avec leur ascétisme protestant. Mais j'ajouterais, c'est aussi en rapport avec les pratiques capitalistes qu'ils avaient en Angleterre. Hein. Donc quand ils débarquent aux États-Unis, immédiatement, ils reproduisent leur esprit protestant et leur esprit capitaliste par des pratiques typiques, disons, de l'esprit du capitalisme. Donc ce qui est décrit là, c'est, disons, une version un peu imaginaire de ce qui s'est passé effectivement au Nouveau Monde, aux États-Unis, au XVIIe siècle.
Mais il est important de savoir si cet esprit est uniquement collectif ou s'il est individuel. Déjà parce que Weber lui-même montre bien que l'aspiration au gain, telle que l'exprime Tournier dans ce texte, n'est pas le propre du capitalisme, que c'est un trait anthropologique. L'homme a toujours eu cette soif d'or, oui. Cette course vers l'or qu'il a engendré. Ce n'est pas ce qui caractérise le capitalisme. C'est autre chose que ce rapport, que cette volonté, cet appétit du gain. Si ça ne vient pas d'un individu mais d'un collectif, alors dans quelle mesure est-ce que Weber se distingue d'une analyse qui serait marxiste, par exemple, et qui assigne la cause du capitalisme au sein de structures elles-mêmes, qui sont un matérialisme qui va engendrer une certaine forme de superstructure? Chez Weber, on a l'impression que c'est l'inverse. Alors, est-ce que les deux s'opposent vraiment?
Oui, alors, je pense que la vraie opposition entre les analyses de Weber et celles de Marx, c'est pas, comme on le dit souvent, celle entre matérialisme et idéalisme. Parce que, bon, l'analyse de Weber, elle n'est pas idéaliste. C'est-à-dire, il montre qu'il y a entre l'économie et la religion, entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, un rapport de circularité et de causalité réciproque, disons. Donc, ce n'est pas vraiment ni matérialiste ni idéaliste. Il pose le problème un peu autrement. Maintenant, l'analyse de Marx, elle n'est pas non plus économique, économiciste, comme on le pense souvent. Marx, pour comprendre l'origine du capitalisme, il parle de... Il y a le chapitre qui s'appelle « L'accumulation primitive dans le capital ». Et Marx insiste sur le rôle de facteur politique. Et il dit, par exemple, l'accumulation primitive du capital, c'est grâce à la conquête des Amériques, le pillage de pays du Nouveau Monde, mais aussi de l'Asie, etc., les trafics d'esclaves, etc. Bon, de pratiques politiques violentes. Bon, l'expropriation des paysans en Angleterre par la violence. Bon, donc, Marx insiste sur le rôle de facteur politique. Je dirais, la grande différence entre les deux n'est pas tellement méthodologique, elle est plutôt politique. Parce que l'argument de Weber en disant le capitalisme résulte du travail forcené du protestant et de l'épargne, ça finit par coïncider avec les arguments d'auto-légitimation de la bourgeoisie. C'est-à-dire, si nous sommes riches, c'est parce que nous avons beaucoup travaillé et nous avons épargné.
Sauf que dans le cas de Weber, c'est la croyance qui prime, qui détermine un comportement économique et pas chez Marx.
Oui, d'accord. Mais, mais pour moi, la grande différence, c'est que Marx a une vision, disons, sinistre de comment c'est l'origine du capitalisme par la violence, le pillage, l'expropriation violente des paysans. Bon, donc il insiste sur ces caractères, disons, d'intervention violente de l'État, de la politique dans l'origine du capitalisme. Tandis que Weber insiste plutôt sur les rôles de l'éthique protestante. Le travail, l'épargne, etc. Donc, c'est là où je vois une différence très grande, plutôt que l'aspect proprement méthodologique. Il existe, bien entendu, mais pour moi, c'est plutôt une différence politique.
Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi voir une différence? Enfin, le point commun, commençons avec le point commun quand même, il est assez clair, c'est que pour tous les deux, les hommes sont dans un système économique où les individus sont dirigés par des abstractions ou des relations impersonnelles. Oui. Mais vous dites que Marx est plus pessimiste et plus dur, on pourrait voir l'inverse. Pour Marx, Marx entrevoit une issue possible à cette situation dans et par la révolution, tandis que Weber, pour lui, il est beaucoup plus fataliste. Voilà. Il n'y aura pas de révolution, c'est ce qu'on appelle le pessimisme fataliste de Weber.
Absolument, voilà. Mais encore une fois, c'est une différence politique. C'est-à-dire, leur analyse du capitalisme est proche, elle n'est pas identique, mais elle est très proche, effectivement. Pour les deux, le capitalisme, c'est un système impersonnel, aveugle, irrationnel à beaucoup d'égards, même s'il y a une rationalité partielle évidemment très importante, et où les gens sont dominés par les structures qu'ils ont créées eux-mêmes. Les gens sont soumis à cette coercition, à cette force écrasante du système économique. Bon, donc les diagnostics sur le capitalisme de Weber et celui de Marx sont assez proches. Dans les deux cas, ce qui devait être un moyen, la production, etc., l'investissement, etc., est devenu une fin en soi. Il y a une espèce d'inversion entre fin et moyen. La production n'est plus un moyen pour satisfaire des besoins. L'argent n'est pas un moyen pour le bonheur, etc., mais il y a une inversion. L'individu se soumet à l'accumulation de l'argent, à la production pour la production. Donc, les deux insistent sur cette inversion négative, disons, entre fin et moyen. Et Weber était conscient de l'affinité entre lui et l'argument marxiste sur cet aspect-là. Il est dit même, quelque part, dans une conférence sur le socialisme qu'il a fait en 1918, qui est une conférence contre le socialisme, bien entendu. Mais à un certain moment, il dit, bon, voilà, il y a une inversion entre moyen et fin dans le capitalisme, comme le disent Marx et les socialistes. Donc, lui-même reconnaît qu'il y a une coïncidence, disons. Donc, le diagnostic est très proche, même s'il n'est pas identique, mais il est très proche. Mais les conclusions qu'il tire sont tout à fait différentes. C'est-à-dire, Marx croit, disons, que les contradictions inhérentes au système vont tôt ou tard provoquer son écroulement et que le prolétariat va se révolter contre le système et va supprimer le capitalisme. Bon, c'est un pari, c'est le pari marxien. Et Weber ne croit pas du tout à ça. Et donc, il croit d'abord que le socialisme n'est pas possible. Et si on tente de le réaliser, on va reproduire le même phénomène qui est dans le capitalisme. Bon, donc là, il y a une différence politique évidente. Et donc, effectivement, il y a chez Weber ce qu'on pourrait appeler un pessimisme radical, un pessimisme résigné. Hein. C'est-à-dire, le capitalisme, c'est un système à beaucoup d'égards inhumain, sinistre, où la liberté des individus est abolie, mais on peut pas, c'est notre destin, on ne peut pas y échapper. Hein, c'est notre destin. Cela dit, dans ces dernières pages de l'éthique protestante, il y a une curieuse tentative de chercher une issue, hein, qui est très atypique. Hein, parce que le discours de Weber, dans tous ses écrits, y compris dans l'éthique protestante, c'est le discours de la résignation. D'ailleurs, il prêche même la résignation un peu dans l'esprit de Nietzsche, hein, la résignation héroïque. L'héros moderne est celui qui sait accepter la fatalité, hein, qui n'essaie pas de se révolter en vain contre la fatalité. Donc il y a constamment ces discours de la résignation héroïque, du fatalisme, de la fatalité à laquelle on ne peut pas échapper. Et pourtant, dans ces dernières pages, il y a quelques passages où il essaye de, on dirait qu'il essaie de trouver une alternative, une issue. Et donc, il y a l'idée d'une bifurcation. Soit on va vers ce qu'il appelle une pétrification mécanique, c'est-à-dire le capitalisme nous amène aux dernières conséquences de la cage d'acier. On arriverait à un univers sinistre, un univers de pétrification mécanique qui compare à l'Égypte pharaonique, disons, espèce de tyrannie absolue. Soit il y aura des prophètes nouveaux, hein, des prophètes d'un type nouveau, qui vont apporter un changement et peut-être le retour des valeurs anciennes.
Oui, c'est ça. Voilà, vous prononcez le terme quand même de valeur, parce qu'on en a un peu parlé en parlant de neutralité axiologique comme principe méthodologique chez Max Weber. Oui. Mais le problème aussi dans le capitalisme, c'est ce que Weber nomme le pluralisme des valeurs. C'est-à-dire qu'avec le déclin du christianisme, ce qui a été perdu, c'est une forme d'unité de valeurs qui faisait que les hommes savaient au nom de quoi ils vivaient. Et désormais, ils vivent dans un univers qui est composé d'un pluralisme de valeurs qui engendre une forme de relativisme et de scepticisme qui donne raison à Weber lorsque celui-ci est pessimiste. Au fond, est pessimiste, il voit bien que les choses, l'histoire ne tend pas vers un seul but dorénavant.
Oui. Oui, non. Et il y a les relativismes de valeurs, mais surtout dans le capitalisme, il y a le déclin de valeurs. Le capitalisme n'a plus de place pour de valeurs éthiques. Hein. Il y a un passage, pas dans l'éthique protestante, mais dans l'économie et société, où il dit le capitalisme, ce n'est pas qu'il est anti-éthique, il est a-éthique. Hein. Il n'y a pas de place pour de valeurs éthiques dans le capitalisme, puisque seul compte le calcul rationnel quantitatif. Dans le capitalisme, il y a le 1000, il y a 1 million, il y a 10 millions, mais il n'y a pas de place pour le bon, le mauvais, le beau, etc. Les valeurs disparaissent, hein. Les valeurs finissent par disparaître. Bon. Et lui, il tient à des valeurs, hein. C'est son aspect que j'appelle romantique, hein. C'est un aspect romantique. Et dans l'éthique protestante, on voit quelles sont ces valeurs. Bon, d'une part, la liberté, puisque le capitalisme, avec la cage d'acier, il nie la liberté. Mais aussi, il y a une phrase où il dit que dans cet univers de la pétrification mécanique, nous aurons des êtres humains sans esprit et sans cœur. Sans esprit et sans cœur. C'est intéressant, cette formule. Bon, donc, l'esprit et les cœurs, hein, Geist und Herz, c'est des valeurs romantiques. Hein. Et donc, voilà un peu les valeurs dont Weber semble espérer, malgré tout, une renaissance. Hein. C'est pour ça qu'il parle la renaissance des anciennes valeurs, l'esprit, les cœurs. Bon, mais c'est très atypique. Hein. C'est vraiment un des rares passages où Weber se permet quelque chose comme une utopie. Hein. quelque chose comme une utopie romantique, hein, la renaissance des anciennes valeurs de l'esprit et du cœur grâce à des prophètes d'un type nouveau. C'est très curieux.
C'est curieux, hein, même pour un sociologue. Vous avez parlé d'une croyance en un destin. Là, vous parlez de prophète. Lui qui mène une entreprise de rationalisation, même si elle accorde une grande part à l'irrationalité. Oui. Il est curieux de voir qu'il rentre en compte dans son approche, dans son travail sociologique, des données qui sont aussi irrationnelles, pour le coup, que le prophète, l'idée d'un prophète ou d'un destin.
Oui, non, disons, l'idée de destin, bon, effectivement, il y a... Mais bon, c'est encore une analyse sociologique, hein, c'est-à-dire, il y a eu un engrenage, hein, qui s'est mis en place à partir du XVIIe siècle, où les individus ont été pris comme un destin, c'est-à-dire quelque chose qui échappe à leur contrôle. Hein. Donc, on est encore dans la sociologie. Et le concept des prophètes, chez Weber, c'est un concept sociologique. Hein, c'est-à-dire, il a toute une analyse des prophètes de l'Ancien Testament qui ont instauré la religion éthique contre la magie. Hein. Bon, maintenant, quand il dit « peut-être des prophètes d'un type nouveau vont venir », on n'est plus dans la sociologie, on est dans des vœux, n'est-ce pas, une aspiration, un désir, un rêve, une utopie. Hein, bon, donc on est dans un autre terrain. C'est pour ça que c'est curieux qu'il se permet, disons, cette digression, disons, utopique à la fin de l'éthique protestante.
L'utopie de voir la cage d'acier enfin ouverte pour que puisse s'en libérer et s'envoler l'oiseau.
Ouais.
Oui, l'oiseau reviendra dans sa cage, retrouver la bonheur qui l'attend, et bénir son joyeux esclavage, à l'abri des grands murs du couvent. Je m'en vais, et quittons à mon âge, ne m'arrête à courir à maman.
Merci beaucoup, Michael Levy, d'être venu nous parler de Max Weber aujourd'hui. Je
Merci
renvoie les auditeurs à votre ouvrage « La cage d'acier, Max Weber et le marxisme weberien », disponible aux éditions Stock. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h47. Encore deux minutes, papillon. C'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie, qui, comme tous les jours, vient vous parler d'un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour, Géraldine.
Bonjour, Adèle. Bonjour à tous. Quelle était la pensée politique du philosophe Bertrand Russell, le spécialiste des mathématiques et de la logique? Réponse à l'occasion de la parution de son ouvrage inédit en français, Éthique et politique, aux éditions Payot. Il y a quelques semaines, je vous parlais de la parution d'un ouvrage politique de Bertrand Russell aux éditions Luxe, Le monde qui pourrait être. Ce texte, Le monde qui pourrait être, est un préambule pour reconstruire le monde dévasté par la guerre. L'ouvrage qui paraît ces jours-ci aux éditions Payot, sous le titre d'éthique et politique, est un peu différent. Il est beaucoup plus imposant et se présente comme une entreprise beaucoup plus vaste. Il ne s'agit pas pour Russell de réagir à partir du contexte de l'après-guerre, mais bien de proposer des principes, un fondement à une philosophie éthique et politique donc. Cet ouvrage, qui est le dernier exposé complet donné par Russell sur ses positions politiques, il date de 1954, a une visée toute simple, rectifier l'image que le public avait de lui, et que l'on a d'ailleurs encore de lui, celle d'un rationaliste excessif qui n'accorde aucune place aux passions humaines. On découvre donc bien autre chose au fil des pages. Russell y développe toute une réflexion sur la raison qui est et qui doit être seulement l'esclave des passions. Dans cette perspective, on découvre même que la raison n'a rien à voir avec la logique, elle n'est pas quelque chose d'objectif pour Russell, mais elle se définit par rapport au désir humain. On est donc loin de l'image du Russell, philosophe des mathématiques et de la logique. Sa pensée éthique et politique s'ancre dans le réel et non dans l'abstraction. C'est une philosophie politique qui part des circonstances et des émotions, et donc du désaccord entre les émotions et les désirs de chacun. Comment, à partir d'un désaccord, amener un groupe de personnes à désirer la même chose et donc à pouvoir vivre ensemble? C'est précisément la tâche de l'éthique de Bertrand Russell que d'y répondre.
Merci beaucoup Géraldine. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Max Weber. Demain, je recevrai Michel Lallemand pour parler d'économie et d'érotisme. Vous verrez, les deux ne s'opposent pas. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour et puis surtout vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h50.